change de point, je vais commencer par le dernier, et ensuite je reviendrai sur la dualité de la science politique et du droit constitutionnel, auquel d'ailleurs Véronique a aussi allusion avant, mais je préférais retarder cette réponse sur ce point, parce que je savais que la question était centrale et qu'elle reviendrait. Alors oui, l'exemple du référendum sur le Brexit, je crois, s'intègre assez bien à l'analyse d'ensemble que j'ai donnée de ce que j'appelle la démocratie semi-directe, et j'insiste beaucoup sur semi-directe, parce que la démocratie directe, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est effectivement une logique qui est complètement à contre-pied de la logique parlementaire, qui est une logique où existe maintenant une majorité homogène, voire automatique. Mais le propre des questions référendaires, c'est que très souvent, elles portent sur des questions qui ne sont justement pas solubles par cette question. Bon, je prends un exemple théorique, n'est-ce pas? Si on fait un référendum sur la peine de mort, à une certaine époque, on en avait parlé, il est certain que les gens ne vont pas répondre à cette question exclusivement par affiliation partisane. Il y aura des pour et des contre dans les deux camps, etc. Bon. Donc, ce que je veux dire par cet exemple massif et irréel, heureusement d'ailleurs, c'est que des questions de ce type sont autre chose que des questions de logique politique au sens d'un clivage droite, gauche, centre, etc. Ce sont donc des questions qui remettent le jeu à plat et avec lesquelles il est difficile d'organiser une vie politique dans le sens parlementaire partisan. En plus, dans le cas du... Donc ça, c'est une vérité d'ordre général. Autre remarque, cet épisode n'est pas le premier dans la vie politique anglaise où on a eu ainsi des majorités fluctuantes, incertaines, toutes les forces politiques divisées contre elles-mêmes, etc. Ça avait déjà été le cas avec la question d'Irlande, n'est-ce pas ? Là aussi, il y a eu un moment où le bipartisme britannique ne fonctionnait plus. Parce que sur la question d'Irlande, l'indépendance d'Irlande, on aurait pu faire un référendum dessus. Et on aurait eu la même chose, le même. Alors, ce qui a compliqué, à mon avis, le problème dans le Brexit, c'est que là, on était dans une décision référendaire qui était nette sans être écrasante, mais qui était quand même avec une majorité nette. C'était difficile de revenir purement et simplement dessus. Ça aurait été la Grèce ou l'Irlande, on aurait dit revoter et puis foutez-nous la paix. Bon. L'Angleterre, c'était un peu plus difficile. Mais la difficulté technique, c'est que cette décision référendaire devait être ensuite entérinée et organisée, les modalités devaient être définies par le Parlement. Donc, on avait une double postulation, en quelque sorte, qui rendait la question d'autant plus délicate, non seulement parce que le clivage binaire du référendum tranchait dans le vif dans toutes les questions de relations partisanes, mais aussi qu'elle devait s'actualiser, mais elle ne pouvait s'actualiser qu'à l'intérieur du Parlement, qu'à travers le Parlement. Et c'est pour ça que finalement, ce qui s'est passé, c'est que la majorité parlementaire s'est fondée en quelque sorte, s'est confondue avec la logique référendaire. Il a fallu qu'on élise un Parlement avec Hurluberlu qui le dirige, qui soit conforme, c'est-à-dire qui donne la même majorité parlementaire que la majorité qu'il y avait eu dans les urnes au niveau du Brexit. Si bien que la puissance du référendum a remodelé la majorité parlementaire au lieu que la majorité parlementaire ou la discussion parlementaire renverse la logique du référendum. Et ça, c'est tout à fait particulier. Je ne vois pas qu'il y en ait d'autres exemples. Mais à mon avis, c'est comme ça, n'est-ce pas, que les choses se sont passées. Et donc, je pense que, bien qu'évidemment, quand j'ai écrit ma thèse, il n'était pas question de Brexit, il n'était même pas question de... Enfin, quand j'ai soutenu ma thèse, c'était juste le moment du référendum de 72. Mais la question a été posée. Mais à ce moment-là, c'était imprévisible. Mais je pense que ça ne contredit pas la logique que j'avais essayé de mettre en lumière, qui était une logique non point de contradiction nécessairement entre la démocratie semi-directe et la vie politique normale, mais disons de non-convergence. Et là, je crois qu'il y a eu effectivement dans Convergence, l'élément significatif étant que la logique politique s'est calquée sur la logique référendaire et non le contraire. Alors, parler de référendum va me ramener à la science politique parce que, bon, sur la science politique, alors ce qu'on disait à Burdeau, les constitutionnalistes disaient que c'était un politiste, les politistes disaient que c'était un constitutionnaliste, on me l'a fait un peu aussi. Bon. Parce que beaucoup de gens, les gens aiment les étiquettes, en particulier les journalistes, enfin, comme je fréquente peu les journalistes, cet aspect de la question n'a pas d'importance. Il y a des gens qui aiment les étiquettes et donc ils n'aiment pas qu'on soit un peu sur deux terrains. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre qu'on puisse s'orienter ou, grosso modo, maîtriser deux disciplines, surtout quand eux-mêmes n'en maîtrisent pas une seule. Et donc, c'est un argument qu'on m'a toujours opposé, et je voudrais en deux mots expliquer pourquoi je ne la trouve pas justifiée. Je ne la trouve pas justifiée parce que il me semble que dans un certain nombre de points, les deux phénomènes ne peuvent être distingués que par abstraction, pour ne pas dire arbitrairement. Et ça, c'est une chose qui est en même temps converge ou explique la méthode que j'ai employée dans certains de cas. Je vais dire ceci. On peut concevoir ces rapports par des généralités. Et c'est un peu ce que faisait Burdeau. C'est la dimension de l'œuvre de Burdeau que je ne suivais pas nécessairement. Il avait un certain nombre d'intuitions générales et il est à partir de ces intuitions générales qui pouvaient être heuristiques, hein, qui étaient tout à fait intéressantes, il en déduisait des analyses. Moi, j'ai toujours essayé de faire le contraire. Je suis toujours parti de problèmes concrets. C'est ce que j'ai fait dans ma thèse, référendum et plébiscite. On oppose l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça cache ? Et il y a eu pour moi un déclic lorsque j'ai lu dans un ouvrage aujourd'hui oublié, dont les auteurs n'ont pas fait carrière, qui s'appelait « Référendum et plébiscite », justement, c'était mon sujet de thèse, et qui était un recueil de textes. Et dans ces textes, il y en avait un, j'ai oublié qui était l'auteur, mais peu importe, qui disait à propos d'un référendum gaullien, « Il s'agit en fait d'un plébiscite. » Il s'agit en fait d'un plébiscite. Et ça m'a profondément heurté par le sens moral, mais ça m'a posé une question de fond. Que voulait dire « en fait » ? Qu'est-ce que ça veut dire « en fait » ? Il s'agit en fait d'un plébiscite. Qu'est-ce qui permet de dire ça ? Ou qu'est-ce qui permet de faire croire que ça a un sens ? Et la logique de ma thèse, là j'avais trouvé la logique de ma thèse, n'est-ce pas ? J'ai dit toujours qu'une thèse c'est un saut en parachute qui a une particularité étrange, c'est qu'après avoir sauté, on se rend compte qu'on a oublié le parachute. Et c'est ça que j'ai vécu. Je me suis dit, mais après tout, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique ? Quelles sont les conditions de possibilité de la chose ? Et je suis arrivé à une conclusion, enfin, que la conclusion de ma thèse, c'est pas mon sujet, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à propos d'une question concrète, et qui est une question de mots, que j'ai essayer de réfléchir sur cette problématique. Et cette problématique, ça n'était pas du droit constitutionnel, puisqu'il n'y avait pas de définition juridique du référendum et du plébiscite, et il n'y en avait pas parce qu'il n'y avait jamais eu de juge qui avait eu à juger si le plébiscite du général, si le référendum du général de Gaulle était ou non un plébiscite, donc il n'y avait pas de concept juridique, et ce n'était pas non plus un concept de science politique au sens traditionnel des termes. Et en même temps, ça participait des deux. Et à partir de là, si vous voulez, j'ai inventé cette problématique à propos d'une question concrète. Et quand j'ai réfléchi sur la notion de majorité, c'était pareil. Quand j'ai réfléchi sur la notion de majorité, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui a fondamentalement changé dans le régime de 1958, pas en 58, mais en 62. Il y a un avant et un après. Or, cet avant et cet après, ce n'est pas une réalité juridique, ce n'est pas une réalité constitutionnelle. Qu'est-ce que c'est ? Et donc, c'est à partir de là que j'ai essayé de réfléchir sur les relations de la science politique et du droit constitutionnel, donc pas par le haut, si je veux dire, mais par le bas, en essayant de voir dans des cas concrets comment on pouvait voir est-ce qu'on pouvait distinguer les deux ou est-ce qu'on pouvait les penser que de façon articulée. Et je citerai un dernier exemple, mais qui est peut-être le plus parlant, c'est celui de la cohabitation. On ne parle plus de la cohabitation. C'est un sujet oublié, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cohabitation, il y a autre chose, il y a des gilets jaunes, enfin, bon. Bref. Et l'esprit a complètement changé. Et cette fin de la cohabitation, elle est, dans une certaine mesure, le résultat de moyens de droit constitutionnel. Mais d'un autre côté, l'idée même de cohabitation n'est pensable que par la conséquence d'un fait politique, l'élection d'une majorité parlementaire différente de celle qu'on attendait. Et à partir de là, on lit la Constitution autrement. C'est-à-dire qu'on dit que la Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est normatif, etc., etc. Et puis bon, vous avez les électeurs qui ne votent pas quand vous leur disiez de voter. Ce qui est choquant, bien sûr, mais bon, c'est un fait. Et donc, un fait politique va faire qu'on va lire la Constitution autrement. Alors, c'est quand même étrange qu'une Constitution normative soit aléatoire, qu'elle norme d'une manière en fonction d'un fait politique, et qu'elle norme d'une autre manière en fonction d'un autre fait politique. Et cette question, n'est-ce pas, ce fait qu'alterne avec la cohabitation, non point les partis politiques, ou pas seulement les partis politiques, mais aussi les constitutions, qui sont pourtant la même constitution, dans aucune, pas une lettre n'a changé, et pourtant on alterne les constitutions à l'intérieur d'une constitution. Eh bien ça, c'est un fait qui ne peut pas être pensé sans référence à des questions de sciences politiques, pas de sociologie politique, de sciences politiques, et inversement, cette question de science politique, elle ne peut se poser qu'à partir d'éléments juridiques. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la Constitution de 1958, il n'y aurait pas eu de problématique de constitution. Et pour sortir de la cohabitation, on a aussi mis en œuvre des techniques de droit constitutionnel. Donc il y a là, me semble-t-il, quelque chose qui fait qu'il est arbitraire de séparer l'un sans l'autre. Et de séparer l'un et l'autre. Et on doit s'efforcer dans des cas de ce genre, le cas du référendum et du plébiscite, le cas de la majorité au sens nouveau de 62, et a fortiori le cas de la cohabitation, il y a quelque chose qui implique une relation entre les deux, et les états d'âme du Conseil constitutionnel n'y sont manifestement pour rien. Il n'y a rien de jurisprudentiel dans tout ça. Donc si vous voulez, c'est à part. Alors, Georges Burdeau, dont on a déjà prononcé plusieurs fois le nom, avait dit une chose à laquelle je reste très attaché. C'est quand il dit c'est pas réaliste que nous sommes demeurés juristes. Et je crois que c'est très juste. Je veux dire, penser la science politique sans aucune référence au droit, et spécifiquement au droit constitutionnel, me paraît absurde. Alors, ça n'est pas absurde, c'est en fait de la sociologie politique. Mais est-ce que la science politique, ça n'est que de la sociologie juridique, de la sociologie politique? C'est ça le problème. Est-ce que l'idée de science politique peut être réduite à l'idée de sociologie politique, comme l'idée de droit constitutionnel peut être réduite à l'idée de jurisprudence constitutionnelle? Je crois que c'est faux, je crois qu'il y a un espace entre les deux, hein, et cet espace entre les deux, si personne ne s'en occupe, on ne sait plus ce que c'est. Donc, il y a un moment où on ne peut pas séparer le droit constitutionnel de la science politique. Entre la sociologie politique et la jurisprudence constitutionnelle, il y a quelque chose, et c'est ce quelque chose que j'ai essayé d'étudier, n'est-ce pas ? Et je me suis senti assez seul, parce qu'effectivement, la plupart des gens, pour des raisons bonnes ou mauvaises, je crois qu'elles sont mauvaises, mais on peut en juger autrement, avaient décidé soit de s'installer dans le camp de la sociologie politique, soit dans le camp du contentieux constitutionnel.